Bonsoir, chers amis de PFC, ravi de vous retrouver cette semaine. Bienvenue dans cette réunion à Romainville du dimanche 22 février 2015, si mes comptes sont bons. Cet après-midi, nous avons fait un remue-ménage ou un brainstorming pour faire un petit peu l'état des lieux des méditations marathon. Il y avait d'autres participants qui sont repartis, Jacques Dubois, Anne. Et Daniel, voilà. Et donc, on pourra un petit peu en parler, si c'est utile, si c'est nécessaire, si vous sentez que c'est juste. Voilà, pour le moment, on va faire un petit tour de prénom. On se présente, on peut dire coucou à une ou plusieurs personnes, si on en a envie.
Bonsoir, c'est Claire. Coucou à Cathy Servet, à Juliette qui devait venir, mais qui n'est pas venue, à Dimché qui ne vient plus jamais, à plein de gens, à tous ceux que je n'ai jamais vus, mais qui sont là en pensée, en esprit, par le cœur.
Bonsoir, c'est Ludmila. Bonsoir, ici Carolina. J'ai rejoint le groupe pour la méditation. Et j'embrasse ma mère, si elle nous écoute. Et à tous ceux qui suivent ces méditations.
Bonsoir, c'est Neira. Je suis ravie d'être encore une fois avec les collègues. Je salue tout le monde, tous ceux qui font la méditation chez eux aussi. Voilà.
Bonsoir, je suis Avi. Avi est ravi. Je suis Avi une deuxième fois de vous accueillir ici dans cette maison de l'Arche, où fleurissent des fleurs mandala et des fleurs de vie. C'est le printemps, n'est-ce pas, hein? C'est la saison des fleurs. Voilà, donc cet après-midi, on a médité à 16h avec quelques personnes ici. Une méditation planétaire d'une quinzaine de minutes. Et puis, à 16h30, on a échangé à propos des méditations marathon et à propos d'autres choses aussi. Neira nous a lu un très joli texte en forme d'enseignement, comme une canalisation qui a touché beaucoup de personnes. Donc peut-être l'aurons-nous sous forme de messages. Mais je sais que ça a bien élevé le niveau des vibrations là pendant cette réunion. Je salue Lina. J'espère que tu es toujours aussi bien au bord de la mer. Et puis, pour le fait que tu ne vis plus seule. Et ce sont des bonnes nouvelles, positives et encourageantes. J'espère te revoir prochainement. Et puis, bienvenue à tous ceux de PFC qui nous écoutent semaine après semaine. Et au final, pour chaque enregistrement, sur la durée, il y a à peu près 400 personnes qui lisent, qui ont accès à la page ou qui écoutent l'enregistrement. Ce qui fait que le groupe est bien plus grand qu'il n'y paraît. On est un groupe virtuel très grand et un groupe physique d'habitués, un petit peu plus réduits. Alors, préparez-vous au changement. C'est le nom de ce mouvement qui est né il y a plus d'un an. Les méditations ont commencé il y a plus d'un an, mais vous rendez-vous compte que le monde change tous les jours et qu'il y a des choses positives qui se passent tous les jours dans le monde. Alors, est-ce qu'il y a un écho dans les médias de ça, ou est-ce que c'est réservé à ceux qui s'y intéressent? Par exemple, il n'y a pas encore de télé des bonnes nouvelles, de journal des bonnes nouvelles à 20h. Hein. Mais il y a un site, sur Internet qui est dirigé par Anne Givaudan et qui édite régulièrement un journal des bonnes nouvelles. Et chaque fois que je diffuse ce journal sous forme de vidéo, waouh, les gens sont super satisfaits parce que ça donne que des bonnes nouvelles. Par exemple, au Bhoutan, ils ont supprimé tous les feux rouges des villes et ils les ont remplacés par des agents, par des humains. Ça, c'est dans un ancien journal, hein, mais ils ont aussi enlevé toute la publicité des centres-villes au Bhoutan. Et récemment, Grenoble a fait la même chose en France. Grenoble a arrêté tous les contrats de publicité pour les panneaux publicitaires dans les abribus et dans les rues. C'est une municipalité écologiste et en même temps, c'est courageux parce qu'ils ont renoncé à 600 000 euros au moins de recettes publicitaires. Donc des bonnes nouvelles comme ça, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup et je crois que en fait, l'événement arrive millimètre par millimètre au fur et à mesure que les bonnes nouvelles s'amoncellent. Hein, et moi, je suis attentif quand je lis la presse, surtout sur ma tablette. Hein, le journal papier, ça fait partie un peu des souvenirs. Et puis, recevoir une lettre avec un timbre écrit à la main dans ma boîte aux lettres, ça tient de l'événement, mais pas du même événement. Hein. Mais récemment, j'ai reçu une lettre avec un timbre écrite à la main. Et je me suis dit, waouh, ça fait longtemps que je n'ai pas reçu une lettre comme ça. On voit que petit à petit, on change d'époque. Hein. En même temps, il y a du positif parce que à travers la presse, sur Internet, par exemple, j'ai pas besoin d'acheter Le Monde, Le Parisien, L'Humanité, Le Figaro. Je peux avoir un aperçu de toute la presse. Et moi, je regarde régulièrement Le Monde, lemonde.fr. Hein, et puis, il y a des nouvelles vraiment intéressantes. J'ai décidé de me créer une boîte aux lettres, un dossier qui s'appelle « Le monde change ». À chaque fois que je trouve quelque chose de positif, d'intéressant, gling, je m'envoie un petit email moi-même et je le stocke dans cette boîte « Le monde change ». Parce que c'est intéressant, même s'il y a plein de mauvaises nouvelles à tous les coins de rue, c'est intéressant de voir en quoi les vibrations s'élèvent. Parce que les choses qui font baisser les vibrations, ce n'est pas ce qui manque. Et si on en parle, on contribue aussi à augmenter la peur et augmenter le niveau des vibrations. On dit que les archontes, puisqu'on en parlait cet après-midi, on dit que les archontes, c'est leur nourriture. Nos émotions sont leur nourriture énergétiquement. Donc, c'est normal qu'ils entretiennent la peur grâce aux médias, grâce à la télé des mauvaises nouvelles. Et puis, les chaînes commerciales ont une grande partie de leur gagne-pain sur l'émotionnel. Hein. Il y a des séries policières, il y a des jeux, la télé-réalité, c'est 100% émotion, si ce n'est pas plus. C'est impressionnant, le business de l'émotion. Et si on va à un échelon au-dessus, c'est-à-dire qui a besoin de cet état émotionnel de l'humanité, on trouve les forces manipulatrices de la Terre, pour qui c'est de la nourriture. Notre ego aussi, hein, notre ego en tant que, on peut dire, implant à l'intérieur de nous-mêmes, parce qu'on a l'ego, le mental qui est neutre, qui est ni bien ni mal. L'ego, le mental me sert à marcher dans la rue, à lire un journal, à faire des choses pour la vie de tous les jours, mais qui ne sont pas liées à la peur, ni au contrôle. Lorsque l'ego commence à vouloir être le maître de la maison, les choses se compliquent pour moi. Les vibrations baissent également. Donc, est-ce que la partie peur, la partie émotion basse ou émotivité, hein, quand il y a tellement d'émotions que ça prend toute ma vie, est-ce que ce n'est pas un implant aussi, un implant subtil, éthérique, qui vient se greffer sur notre mental, qui normalement, c'est le mental, c'est le serviteur. Moi, je suis le maître et mon mental devrait être à mon service. Alors que là, le mental, c'est le vizir qui veut être calife à la place du calife. Voilà, donc, déjà voir le jeu tel qu'il se passe, voir que l'émotion, c'est une marchandise qui est vendue de manière à laisser notre taux vibratoire bas, c'est déjà beaucoup, voir le jeu pour ce qu'il est, c'est-à-dire ne pas voir seulement les effets, mais voir aussi les causes, hein, remonter un peu. Et puis si je veux me détacher des causes, ben des effets, je me détache des causes. Ça veut dire que si je sais que la télé classique, mass-média diffuse de l'obscurité et de la peur, alors quand je le sais, c'est plus facile de réfléchir avant de l'allumer ou de la revendre sur eBay ou de la jeter à la décharge ou de la recycler, par exemple. Moi, j'ai fait le choix d'avoir un projecteur. J'ai pas de télé en tant que telle, ça veut dire que si j'ouvre l'écran, si je branche le projecteur, c'est du boulot, hein. Il faut vraiment que ça en vaille la peine. Donc, quand il y a vraiment quelque chose à voir en grand écran qui est intéressant, utile, j'ouvre l'écran, je branche le projecteur. Je mets le son, c'est toute une technique pour diffuser. Et je ne fais pas ça pour voir TF1 à 20h, hein, ça c'est sûr. Donc, voilà, et puis je constate avec plaisir que de plus en plus de frères et sœurs bien-aimés ne regardent plus la télé parce qu'ils ont compris à quel point c'était un instrument de propagande de la peur et d'un niveau vibratoire de plus en plus bas. Et puis, y compris des personnes qui ne sont pas forcément des travailleurs de lumière, hein. J'écoute Radio Ici et Maintenant. Alors, c'est un peu plus élevé comme niveau de vibration que RTL ou je ne sais pas quoi. Mais ce n'est pas forcément spirituel, hein. C'est plutôt développement personnel plus, hein, et beaucoup d'intervenants avouent qu'ils ne regardent plus la télé ou qu'ils ont arrêté ou même d'écouter les chaînes radio classiques, les chaînes qui matraquent des spots publicitaires, voilà. Et puis même aller dans un grand magasin, Carrefour, Auchan, pour ceux qui évoluent en conscience, ça devient pénible. Parce que Le message, c'est acheter, acheter, acheter. Et puis, il y a des haut-parleurs, et puis, il y a des pubs. Et quand ça devient pénible, c'est signe que la conscience a monté d'un niveau. Parce que moi, je me rappelle qu'il y a 15 ans, j'y allais et que ça ne me dérangeait pas. C'était un peu matraquage, mais j'y faisais pas. Aujourd'hui, c'est carrément un exploit pour moi de me promener plus de 30 minutes dans une grande surface. J'y vais très rarement, peut-être une ou deux fois par an, mais alors quand j'y vais, je me rappelle bien que j'y suis allé. Parce que j'ai la tête grosse comme une citrouille. Après les achats, bon, voilà, je pourrais même certainement éviter cette fois où j'y suis. Mais bon, voilà, et c'est intéressant parce que de se retourner de temps en temps en arrière et puis de voir le chemin parcouru par rapport à ça, hein, et de voir que le monde change. Ma vie change, et les choses qui n'étaient pas conscientes avant commencent à devenir conscientes, voire très conscientes, et que la 3D, ça commence à bien faire par moments, comme si je la voyais au premier plan, comme si je la ressentais. Bon, en même temps, je la condamne pas, j'essaye pas de la juger, parce que je sais que ce n'est pas la bonne solution. Ça descendrait mon niveau vibratoire, mais je vois le décalage, hein, en attendant. Le décalage entre le niveau de vibration des personnes que je fréquente et puis le niveau de vibration des plus grandes masses, on peut dire. Ceci étant, chacun est à son niveau d'évolution et tout est juste tout le temps, y compris pour les gens qui n'ont pas choisi d'évoluer aussi vite, ou qui ont besoin encore d'une ou plusieurs incarnations pour y arriver, ou pour se rendre compte que cette vie actuelle ne les rend pas vraiment heureux. Alors, voilà. S'il y a des choses à dire, je cède volontiers le micro. J'ai plein de choses à dire, mais...
Nera, je suis vraiment ravie, je l'ai déjà dit une fois, mais je suis vraiment ravie de retourner ici faire la méditation avec les amis. Ça faisait un bon bail que je ne venais pas, mais que je faisais la méditation chez moi. Mais bon, je me rends compte que être à plusieurs, donc ça crée une très jolie énergie. Et puis donc depuis 4 heures qu'on a fait la méditation et puis le brainstorming avec Jacques et puis Anne, Daniel qui était là aussi, puis tout à l'heure avec Avi, la visualisation et cette jolie musique d'amour, c'est vrai que je me sens vraiment un peu sur les nuages, quoi. C'est une après-midi vraiment qui s'est passée en douceur. Oui, en douceur, quoi. Il y a une très belle énergie, très très calme, c'est tranquille, c'est doux, quoi. Et puis bon, Ça me fait plaisir de découvrir, enfin d'être là, quoi, baigner dans cette énergie qui parfois n'est pas la même que quand on fait la méditation tout seul. Mais bon.
Bonsoir Carolina. Donc comme Nera, moi je n'étais pas venue depuis un bail. Et ça fait suite à quelque chose que je souhaitais. Enfin, il s'est passé quelque chose sur le plan professionnel. En ce qui me concerne, en septembre, je me suis réorientée vers quelque chose qui me correspondait plus. Et je pense que c'est aussi sûrement lié à tout ce qui est en train de se passer en ce moment. Et j'en suis très heureuse. Seulement, ça a bouleversé un peu ma vie. Enfin, j'ai dû mettre tout ça en place. Et donc, il y a plein de choses que je faisais habituellement que j'ai arrêté de faire. Bon, la méditation, il y a aussi le yoga. Je pratique le yoga. Bon, là, les horaires ne correspondaient plus. Et voilà, donc j'étais un peu triste. Et en même temps, j'étais très heureuse de faire ce que je voulais faire vraiment. Et là, en fait, je m'attelle à essayer de faire que ma vie soit encore plus heureuse, du coup, de pouvoir encore trouver du temps pour tout ce que j'aime faire. Et donc, voilà, je m'amuse. Et bon, voilà, il y a beaucoup de positifs. Et je suis très contente d'avoir été avec vous ce soir.
Encore Néra, et j'ai oublié de vous dire que nous remercions notre sponsor pour ses beaux dîners, pour ses magnifiques soupes, ses bons riz que Avi nous a fait croustiller. Alors, c'est un régal. Je suis toujours dans les goûts.
Oui, je me joins à ces remerciements. Le repas a été vraiment délicieux. Aujourd'hui, à 2h, j'ai reçu plein de barquettes d'amour emballées avec soin et puis livrées le dimanche par un livreur en mobylette très gentil. Donc, merci. Ça aussi, c'est la preuve que le monde change. Nous avons l'abondance dans nos réunions. Hein, donc c'est... Et puis, l'amour gagne du terrain. Hein. L'amour se manifeste dans toujours plus de situations, comme ce joli repas offert avec amour. Il faut que je fasse attention de ne pas rentrer dans la divulgation. Par inadvertance. Alors, saviez-vous que les arrestations ont commencé ? À une petite échelle. Il y a eu des mandats d'arrêt contre 3 anciens responsables d'UBS, la banque suisse. Donc, des mandats d'arrêt, c'est quand même rare, hein, dans le monde de la finance. C'est souvent, je te donne quelques millions d'euros, et puis on oublie tout, et puis je continue à faire ma soupe comme d'habitude. Non, et ben là, il y a eu 3 mandats d'arrêt contre 3 anciens responsables d'UBS qui ont été vraiment responsables de grosses fraudes et puis de manipulations, fraudes fiscales, etc. Ça date du 17 février. Donc c'est vraiment très récent, très très récent. Voilà, et puis qu'est-ce que j'ai lu aussi c'est un site internet qui s'appelle Disclose.tv. Disclose, c'est divulgation. La Russie enjoint Obama de dire au monde la vérité à propos des aliens ou alors elle le fera elle-même. Ça m'a scotché, ça. Hein? Parce que la Russie a beaucoup d'informations. Ceux qui n'ont pas vu Men in Black, mais pas le film qui a été projeté en France dans les cinémas, le Men in Black russe, sous-titré français, qui est un véritable document de divulgation sur tous les phénomènes extraterrestres qui ont été filmés en Russie. C'est disponible assez facilement. Hein. C'est un documentaire de presque 1 heure, je crois. Donc là, il commence à y avoir de la pression, hein, de la pression pour dire jusqu'à quand les cachotteries. Hein. Et puis, Antoine Valli a créé une nouvelle page pour déclarer des groupes dans le monde entier. Hein. Ça s'appelle Rencontrer les gens de PFC dans votre région. Donc, il y a un forum avec tous les continents, tous les pays, plusieurs villes par pays, où on peut dire, moi je suis là et je fais un groupe, et c'est tous les dimanches à telle heure. Donc, c'est aussi un forum où on peut partager des choses avec les gens de la région. Par exemple, il n'y a aucun groupe à Marseille, je crée une entrée, je dis « Coucou, je suis de Marseille, je voudrais bien rencontrer un groupe. » Voilà, et c'est intéressant et important, hein, parce que... Donc, ça a été posté sur Facebook par Antoine Valli. Et on peut trouver la référence sur le site Prepare for Change, à la date du 10 février 2015. Préparation à rencontrer les gens dans votre région. Donc, et puis, associé à ça, il y a un forum PFC, où il y a de l'interactivité. On peut poster des articles et on peut... donc, ça avance. Hein, le monde change. Je me disais que... ça fait longtemps que je me disais que ça avait été annoncé au tout début de PFC, qu'il y aurait des modules pour communiquer entre nous, et puis ça n'avait jamais été, ça n'avait jamais abouti. Et là, merci Antoine Valli, qui a fait bouger ça. Hein. Donc il y a des choses qui bougent, même sur PFC. Je disais informellement, hors micro, que sur la page d'accueil de PFC, prepareforchange.net, on retrouve la liste qui avait disparu pays par pays et groupe par groupe de tous les groupes de la planète. Hein. On peut dire je cherche Australie et puis j'ai tous les groupes d'Australie. Et en France, il y a une vingtaine de personnes. Donc si vous voulez créer un groupe près de chez vous et que vous avez envie de faire les choses localement, eh ben, il y a un formulaire pour dire « je suis là et je suis disponible pour accueillir un groupe chez moi ». Donc, je crois qu'il y a une accélération sur le site Prepare for Change. Ils ont même ouvert une radio internet Prepare for Change où ils vont inviter Cobra. Donc, je crois qu'il y a de la pression de la part de Cobra, peut-être, ou de... les forces de la résistance pour faire bouger les choses un peu plus vite, hein, parce qu'il y a comme des champignons, des trucs qui ouvrent, qui correspondaient à des anciennes annonces, des anciennes choses. Alors ça, c'était le 13 février, donc c'était il n'y a pas très longtemps. Hein. Et le 14 février, le jour de la Saint... Je vois si j'arrive à la réveiller. De la Saint-Valentin. Ce jour-là, il y a eu un scoop, parce que Free avait lancé en son temps l'Internet pour tous. Et maintenant, il y a deux personnes qui ont lancé les lunettes pour tous, à 10 euros la paire. Et même des lunettes de grande qualité, hein, c'est pas des lunettes quelconques, ouais. Alors c'est qui? C'est Paul Morlaix, lance les lunettes pour tous, paire tip-top à 10 euros, et puis par la même occasion, il dévoile toute l'arnaque qui est derrière ce marché des lunettes, parce qu'il y a un tas d'entourloupes aux mutuelles et aux trucs, c'est une... Donc d'une pierre deux coups, hein. La première, c'est les lunettes sont vraiment au prix où elles devraient coûter, parce que c'est des bouts de plastique pourquoi ça coûterait un prix astronomique, hein. Voilà. Et puis d'un autre côté, on dénonce la manipulation parce que ça cache un business occulte, hein. Derrière le prix des lunettes, il y a des choses. Aucune mutuelle n'est dupe qu'il y a des financements à travers les opticiens et des trucs comme ça. Donc la nouvelle terre commence à tenir ses promesses. Et c'est Cathy, merci Cathy pour l'information, qui nous a donné ce double scoop. Voilà, alors qu'est-ce qu'il y a encore? La France devient la troisième surface agricole bio d'Europe. Ça valait le coup d'être dit, hein? C'était utile. D'ailleurs, je ne dis plus coût, j'essaye de plus dire coût parce que ça vaut le coup, ça veut dire qu'il faudrait qu'on me frappe. Mais non, je ne suis pas d'accord. Tu veux un coup de main, il y a un nombre impressionnant de coups dans notre vocabulaire. Un jour, je ferai la liste, mais c'est des implants. Ce sont des implants de langage. Ça vaut le coup. Regardez le vrai sens de ça vaut le coup. Ça vaut la peine d'être frappé. Ben non, pas pour moi. Moi, je peux dire, c'est utile. Hein, et là, c'est le vrai sens. Mais quand tu dis ça vaut la peine, mais je suis pas peiné, je suis pas peiné du tout de faire ça. C'est utile. Tout est à l'envers. Je m'éclate pour dire je m'amuse. Non, moi je m'éclate pas du tout. Je reste entier.
Les gamins maintenant ils disent oh ma mère elle va me tuer.
Voilà.
C'est la première fois que j'ai entendu ça.
Ou alors pour dire c'est bon, c'est d'enfer, mais. Le langage est hyper manipulé, hein, et il est temps de mettre de la conscience sur les mots qu'on dit. Parce que le mot que j'entends le plus souvent, c'est « du coup ». Et ça, c'est presque inconscient. Pour la plupart des gens, au lieu de dire « donc », qui est vraiment encore plus court et, plus, et qui veut dire ce que ça veut dire, je dis « du coup » et donc... Je frappe, hein, je frappe quelqu'un du coup, par ce coup. Et puis un coup d'aspirateur, un coup de balai, un coup de main, un coup de fil, coup sur coup, coup sur coup. On est infesté de coups. Mais merci Dianeya, hein, qui est dans l'Aude, qui a écrit un petit fascicule qui s'appelle Le Verbe ascensionnel. Et qui fait la liste de ces implants de langage. Il y en a beaucoup, hein. Même beaucoup, c'est un beau coup. Hein. C'est un coup qui est beau.
Oui.
Bon, mais enfin ça, c'est devenu un seul mot. Donc, la France devient la troisième surface agricole bio d'Europe. 1 100 000 hectares cultivés en bio. La France a dépassé l'Allemagne. Pourtant, l'Allemagne en bio, c'est une référence, et affiche la troisième surface bio d'Europe, lemonde.fr. Hein. Si vous voulez trouver des bonnes nouvelles, vous allez sur la rubrique Planète, et souvent, il y a des choses intéressantes. Et il y en a, hein, cette semaine. Alors, futur. Alors ça, c'est exceptionnel, parce que ça, ça date d'aujourd'hui. L'émission Future s'est intéressée à une île des Canaries, petite île, hein, qui s'appelle El Hierro, et qui va en 2015 être autonome en eau potable et en électricité. Complètement autonome. Ça veut dire qu'elle va produire ses propres besoins d'eau potable et produire ses propres besoins d'électricité. J'ai vu ça ce matin. Alors, c'est magnifique. Pourquoi? Parce qu'ils ont inventé, un ingénieur électricien a inventé le système qui s'appelle hydroéolien. Et c'est unique et c'est assez génial. Comment ça se passe? Le vent fait tourner les éoliennes, mais parfois il n'y a pas de vent. Donc, les éoliennes s'arrêtent. Et donc, ça ne va pas pour alimenter une île où il y a besoin tout le temps d'électricité. On va pas regarder, on va pas passer l'aspirateur seulement quand il y a du vent. Hein. Sinon, Bon. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Quand il y a de l'électricité, quand le vent souffle, il y a un bassin en bas d'une montagne et il y a un bassin à 800 mètres plus haut rempli d'eau. Et quand il y a de l'électricité, ils pompent l'eau du bas vers le bassin supérieur grâce à l'électricité du vent, quand il y a du vent. Et quand il n'y a pas de vent, ils relâchent l'eau qui est en haut, ça fait tourner des turbines et on a de l'électricité. C'est comme une grande pile, en fait. La puissance, elle est stockée dans l'eau qui est à 800 mètres de haut. Et donc, avec ce système-là, ils ont de l'électricité tout le temps. Ils ont quelques éoliennes. Il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a, je crois qu'il y a 30 000 habitants. Mais ils ont une autonomie en électricité grâce à ça. Et pour l'eau potable, ils ont fait des trucs excellents. Comme il n'y a pas de précipitation là-bas, c'est quand même assez rare. Hein, une île, il n'y a aucune précipitation. Il n'y a pas de lac et il n'y a pas de rivière. C'est une petite île. Hein. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? L'ancien gouvernement, les Canaries, c'est espagnol, c'est ça ? A installé 4 centrales de désalinisation de l'eau de mer qui fonctionnaient au gasoil. Le gasoil est devenu de plus en plus cher et donc cet ingénieur électricien, qu'est-ce qu'il a fait ? Ben, il a installé l'hydroéolien pour les centrales qui désalinisent l'eau de mer. Ça a coûté le total 80 millions d'euros, je crois, pour l'île complète. Mais là où ils employaient le gasoil, maintenant, c'est le vent et c'est l'eau stockée en haut de la montagne qui produisent le courant pour faire de l'eau potable. Donc, ça coûte zéro. Ça a coûté 80 millions d'euros, mais maintenant, ça ne coûte plus rien. Et ils ont trouvé un truc génial aussi. Il n'y a pas de rivière, mais par contre, il y a beaucoup de brouillard. Il y a un arbre qui s'appelle l'arbre fontaine, qui est tout à fait exceptionnel, presque miraculeux. Il capte le brouillard avec la structure de ses branches et de ses feuilles en gouttelettes d'eau. Et ils ont mis un parterre qui récupère l'eau et qui la ramène dans les canalisations de la ville. Et c'est de l'eau pure, c'est de l'eau qui vient du brouillard. Et donc il y en a beaucoup là-bas, en haut des collines, ça capte l'eau. C'est un arbre fontaine. Et c'est connu depuis très longtemps, hein, ces arbres-là. Ça condense les gouttes du brouillard. Donc ça, c'est magnifique. Donc El Hierro, en 2015, sera complètement autonome en énergie et en eau potable. Alors, c'est applicable à toutes les îles, déjà. Hein, vraiment. Et puis ensuite. Dans l'émission future, cette histoire d'hydroéolien, ou même simplement comment stocker l'énergie en faisant monter l'eau en haut d'une colline, dans un bassin. C'est une manière de stocker de l'énergie pour les jours où il n'y a pas de soleil, où il n'y a pas de vent. Il fallait y penser. Hein. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font ? Ils imaginent stocker de l'eau dans les mines désaffectées d'Allemagne, parce qu'ils avaient plein de mines de charbon ou de métaux, et bien, ils les remplissent d'eau. Et puis quand ils ont besoin de stocker de l'énergie, ils pompent l'eau. Et voilà, et ça fait un aller-retour entre ce qui est profond. Donc ça s'adapte au lieu où il n'y a pas de montagne, où il n'y a pas de dénivelé. Ils mettent ça dans les anciennes mines. Donc, ça bouge. Hein. Alors, il y a un autre truc assez révolutionnaire, c'est qu'ils commencent à dépister le cancer grâce à une simple prise de sang. Et donc, à des stades très, très précoces, à des stades où le cancer peut être guéri. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'est une Italienne cancérologue qui a inventé... elle a trouvé qu'il y avait des molécules qui étaient émises par les tumeurs au stade très très précoce et qui sont dans le sang. Et elle a fait une sorte de passoire minuscule avec des trous de quelques microns. les globules rouges passent à travers, mais les molécules propres au cancer sont retenues par la passoire et après, ils peuvent, grâce à une simple prise de sang, savoir qu'il y a des molécules cancéreuses dans le sang. Ils peuvent détecter une molécule sur 10 millions. Avec ce qui veut dire que l'éradication du cancer, ça ne sera pas par la chimiothérapie, ça sera par la prévention. Et puis, dans une autre émission, j'ai vu la même chose. J'ai vu des chiens qui pouvaient être dressés pour sentir les effluves du cancer parce que ça a une odeur dans l'haleine d'une personne. Bien sûr, alors, on peut s'attendre à ce que les labos qui vendent la chimiothérapie ne soient pas vraiment heureux parce que ça va leur faire du manque à gagner. Et on peut s'attendre aussi à ce qu'ils essayent de supprimer ces inventions, ces méthodes. Le chiffre officiel, si vous ne le savez pas, c'est 2% des chimiothérapies sont efficaces. Tout le reste, c'est le cancer gagne. Hein. Voilà, donc c'est quand même c'est une chose qu'on ne dit pas vraiment souvent. Et la dernière nouvelle, elle date de 13h47 aujourd'hui. Il y en a aujourd'hui. On arrive au bout de ce qu'on peut faire avec les antibiotiques. Il y a des bactéries de plus en plus résistantes, y compris dans l'élevage du bétail. La viande est bourrée d'antibiotiques et même avec ça, il y a des infections qui n'arrivent plus à juguler. Eh bien, il y a quelque chose qui vient de Géorgie et qui existe depuis longtemps. Ils emploient les virus contre les bactéries. Il y a certains virus qui sont bactériophages. Et avant que les antibiotiques existent, déjà en Géorgie, ils avaient tel virus pour le streptocoque, tel virus pour telle autre bactérie. C'est des virus qui sont amis, qui ne sont pas nocifs pour l'homme, mais qui mangent les bactéries. Et donc, tu as telle maladie, tu as des comprimés, des tablettes avec tel virus spécifique, tu prends 10 à 15 jours et c'est. Et en vérité, ça n'a pas d'effet secondaire parce qu'il n'y a pas de chimie là-dedans. C'est vraiment du vivant, c'est du naturel. La Géorgie et tous les pays de l'Est au niveau santé n'étaient pas considérés par l'Occident comme fiables parce qu'ils n'étaient pas obligés de faire des tests. Ils livraient sur le marché beaucoup plus directement. Ils ne faisaient pas de tests comme ça se fait chez nous. Et donc, ça a été la raison pour laquelle ça ne s'est pas diffusé en Occident. Parce qu'ils considéraient que ce n'était pas fiable. Mais maintenant qu'ils sont vraiment avec les bactéries à l'hôpital, il y a 30 000 personnes par an qui meurent à la suite d'une infection contractée à l'hôpital. Donc tu viens en bonne santé et tu repars malade ou dans un cercueil. Voilà, donc ça commence à être très inquiétant, le fait qu'il n'y ait plus de remède contre certaines bactéries et ça devient des bactéries tueuses parce qu'on ne sait plus comment les juguler. Donc les virus bactériophages, comme quoi la nature a tout prévu. Hein. Derrière chaque poison, il y a un antidote. Et derrière chaque bactérie, il y a un virus qui s'occupe de la juguler. Donc voilà les nouveaux traitements là qui. Donc si vous avez Arte cette semaine, c'est encore visible. Hein, ces deux choses là, les virus contre les bactéries, c'est dans Futur. Hein, c'est une émission vraiment excellente. L'histoire de El Hierro autonome en énergie, c'est dans Futur. Et le dépistage du cancer avec une simple prise de sang, c'est aussi dans Futur. Donc, quand on dit le monde change, dans cette émission, on peut voir beaucoup de choses innovantes qui vont bientôt être employées dans la vie de tous les jours. Et puis, Arte, C'est une chaîne qui bouscule parce que souvent elle va contre l'ordre établi. Elle va contre les multinationales. Quand il y a eu Le Monde selon Monsanto, c'était sur Arte. Quand il y a eu Le Poison dans vos aliments, c'était sur Arte. La conscience, et ça a beau être une chaîne franco-allemande, c'est plutôt, je dirais, l'Allemagne qui pousse à divulguer les choses et puis à bousculer les multinationales, à bousculer l'ordre établi.
Dans le journal électronique que je reçois, qui s'appelle Basta, j'ai pas lu cet article, mais j'ai lu le titre de l'article, j'ai lu d'autres articles, je ne pouvais pas tout lire. Il y a un livre qui s'appelle « Le livre noir des banques françaises » qui vient de sortir et qui raconte absolument toute la corruption monumentale des banques qui organisent la fraude fiscale. Donc c'est organisé, c'est vraiment... je savais qu'il y avait des avocats fiscalistes, mais si on voulait lutter contre ça, on pourrait parfaitement... mettre tous ces gens-là en taule et démolir ce genre de banque, quoi. Donc, c'est dénoncé, là, dans un bouquin que je n'ai pas, hein, il vient de sortir, qui coûte 22 euros. Voilà. Donc, ça continue. Je ne sais pas si je vais le lire, parce que j'ai peur d'être plombée, mais c'est intéressant de savoir que, maintenant, ça sort de plus en plus. Mais il y a déjà très longtemps, moi, je me souviens, j'étais au lycée, j'avais 15 ans, je devais être en seconde ou en première, il y avait Jean Ziegler, un économiste, qui avait écrit un livre, donc il y a déjà 40 ans, qui s'appelait « La Suisse au-dessus de tout soupçon », qui parlait de tout ça, ces gens qui planquaient du pognon, qui détournaient, qui... Donc ça avait commencé il y a longtemps, 74, 75 par là, voilà. Sinon, dans les bonnes nouvelles, enfin, donc sur la chaîne internet qui s'appelle Le Grand Changement, enfin chaîne, site, qui va publier d'ailleurs une télévision, qui va créer une télévision, c'est Stéphane Coll qui dirige ce site. Il y a eu une conférence, donc alors je ne me souviens plus du nom du monsieur, c'est un monsieur qui vient de Marseille, qui est chercheur dans les domaines physiques et, on va dire, énergétiques, métaphysiques, qui donc fait dans toutes les recherches qu'il a menées depuis beaucoup d'années, c'est un monsieur qui doit avoir entre 50 et 55 ans, depuis au moins 20-25 ans, montre graphiques, visuelles et aussi des preuves tangibles de manifestations spirituelles. Enfin, je ne sais pas comment dire tout ça. Donc, dans une conférence qui vient d'être faite, là, il s'appelle Jean-Claude, je crois, ce monsieur Raoult. Je crois que c'est Jean-Claude Raoult. Je crois que c'est lui. Et c'était très intéressant. Alors évidemment, ça rejoint aussi ce que disait déjà depuis un certain temps Drenvalo Melchisedec, hein, donc ce chercheur spiritualiste, je crois qu'il a il est physicien, il me semble, au départ, Drenvalo Melchisedec, et aussi ce que dit Greg Braden, ça rejoint ce que disent tous ces gens-là. Donc c'est intéressant qu'il y ait un pont entre le monde des sciences dures, on va dire, et le monde de la métaphysique, enfin de ce qu'on appelait avant la parapsychologie, les choses énergétiques, et enfin surtout subtiles. Le mot énergétique, je ne sais pas s'il convient là. C'est pas. Enfin bon, bref. En tout cas, il se passe quelque chose là.
un truc. Ah si, si, j'avais pensé qu'il fallait que j'en parle quand je viendrai ici. Alors moi, j'ai lu un article en anglais que j'ai trouvé sur un lien hypertexte. Je crois que c'est dans un article de Cobra qui parle de Tesla et de son élève là, un de ses élèves, Marconi, qui était en fait son ami et pas son rival, comme il semblerait qu'il y ait des gens qui disaient que c'était son rival. Et alors là, ça m'a fait mais vraiment halluciner. Tu l'as lu, Avi ? Ah, c'était génial. Oui, oui, c'est ça. Alors, en fait, Marconi, dans les années 30, quand il a vu comme Tesla, Nikola Tesla, donc l'inventeur de ce qui est l'énergie libre, mais dont on n'a pas beaucoup pour l'instant les preuves de fonctionnement encore sur Terre, enfin, moi, c'est ce que j'ai compris, qui lui avait fait des découvertes extraordinaires dans le domaine de l'électricité, de plein de choses. Quand il a vu comme cet homme, donc quand Marconi a vu comme Tesla, son professeur et inspirateur, avait été anéanti par la finance pourrie, qui ont réussi à le faire mourir dans la misère, à lui supprimer des inventions, à lui détourner ses inventions, etc., etc., il est parti et il a décidé de plus du tout dépendre de ces gens-là et d'aller faire avec... j'espère que je résume bien. Il est parti en Italie d'abord. Alors là, c'est un peu j'ai du mal à résumer ce que j'ai compris là. Il a voulu parler de certaines de ses découvertes au dictateur Mussolini. Bon, après il s'est fait passer pour mort parce que il sentait qu'il commençait à être manipulé par ce type dont il ne savait peut-être pas au début que c'était un dictateur. Je sais pas, parce que c'était dans les années 30. C'était avant la Deuxième Guerre mondiale. Et il est parti en Amérique du Sud avec des compères à lui, ils étaient une dizaine de scientifiques, et ils sont allés dans un pays qui n'est pas identifié, dans un endroit qui n'est pas identifié, en altitude, dans un cratère de volcan, dans une ville, un endroit... Et là, ils ont fait toutes les recherches qu'ils ont voulu, et ils ont fait des recherches sur... évidemment, ça ne va pas me revenir quand je veux le dire... ce qui leur a permis de partir, alors ça va sembler fou aux gens, mais c'est sur l'antigravité, qui leur a permis de créer une technologie de déplacement. Et ils se sont déplacés, c'est vrai ce que je vous dis là, c'est pas des conneries, en 1956, parce que ça paraît hallucinant, 1956, ils sont allés sur la Lune en quelques heures, oui, vous entendez bien, en quelques heures. Non. Avi me dit en quelques minutes. Moi, je crois que c'est en quelques heures. Mais bon, peu importe. On n'est plus à ça près. Et ils sont aussi allés sur Mars. Et là, ils ont découvert la manifestation de civilisations qui vivent ou qui vivaient là-bas. Sur Mars et sur la Lune. Et sur Mars, par exemple, il y a des pyramides. J'ai vu la photo. Je l'avais déjà vue. Et il y a aussi d'anciens bâtiments. Je ne peux pas vous en dire plus, mais j'ai quand même été le cul par terre quand j'ai su qu'ils étaient déjà allés en quelques heures, alors que les fusées Apollo mettaient plusieurs jours pour arriver là-bas, et qu'en plus on nous a menti en disant que les astronautes avaient marché sur la Lune, paraît-il que c'est pas vrai, que c'est un fake, que c'était pas possible. Donc voilà, ils sont allés là, et ils ont fait des tas de recherches. Malheureusement, ils ont aussi utilisé la fameuse énergie libre. Enfin, moi, j'étais ravie de lire tout ça. Et il y a un ingénieur italien, dont je ne me souviens plus le nom, Genevese, quelque chose comme ça, qui a écrit, ou espagnol, oui parce que c'était en espagnol que j'ai lu, c'était pas en italien, qui a écrit tout un livre, puisqu'il a accompagné en fait ces gens-là, donc Marconi et ses compères, ses collègues, dans ces voyages-là, et il relate toutes ses expériences. Et il relate aussi comment dire, ils relatent le contact avec les Martiens. J'ai oublié de vous dire ça. Ils n'ont pas vu que des choses, des bâtiments. Je suis un peu fatiguée, excusez-moi. Ils n'ont pas vu que des traces de civilisation. Ils ont aussi été en contact sur Mars avec une vraie civilisation. Et il relate ça dans son livre, qui je ne pense pas qu'il soit traduit dans d'autres langues, je n'en sais rien. Enfin, donc ce lien hypertexte, il est donc dans un... Ça s'appelle Tesla quelque chose, dans un des derniers postes de Cobra. Et j'ai été vraiment très contente de lire qu'il y avait eu déjà... toutes ces choses qu'on croit qui ne sont pas sorties et qui en fait existent déjà sur Terre mais qui sont cachées, qui ne sont pas encore révélées. Voilà.
Oui, on a bientôt fini. Alors il y a encore, à propos de Tesla, Tesla a sorti une voiture électrique dont le chargement est gratuit avec ses propres chargeurs ultra rapides. Et la voiture peut rouler 500 km. Et en France, il y a déjà 160 bornes de recharge Tesla qui sont les bornes les plus rapides au monde pour charger une batterie de voiture. Et j'ai la photo devant les yeux, là. C'est vraiment assez sympa. C'est très futuriste. Et là, on recharge la voiture en même pas 30 minutes, au lieu de plusieurs heures pour les autres. Et il y a 500 km d'autonomie. Donc, c'est 500 km, on peut aller loin. Et sur toutes les grandes autoroutes, près des stations-service ou près des centres commerciaux, on peut mettre sa voiture à charger. Et l'avantage, c'est que c'est gratuit pour tous les clients de la marque. Tu ne payes pas la recharge pendant toute la vie de la voiture. Donc, 500 km, c'est le double de toutes les voitures électriques existantes aujourd'hui. Ils ont mis les batteries en dessous le sol, en dessous le plancher de la voiture, et ils ont garni avec des batteries très, très performantes.
C'est vraiment les... Mais est-ce que les prix des voitures sont intéressants? Parce que souvent, c'est horriblement cher.
Alors, le prix des voitures, je ne sais pas. Je crois que c'est encore un petit peu cher. Le truc, c'est de faire baisser le prix des batteries. Mais la science avance très vite, hein, pour les batteries aussi. J'avais dit ça dans une réunion. Il y a un inventeur qui a inventé le moyen de charger une batterie à 70% en 2 minutes avec un système révolutionnaire. Et ça va se... Je dirais, il n'y en a plus pour longtemps à attendre que sa voiture ou son téléphone se recharge. Ça va devenir des choses dont on va rire avant, quand on disait « je vais dormir, je vais mettre mon téléphone à charger parce que sinon, je ne peux pas attendre tout ce temps-là. » Il y a un point que je ne voudrais pas passer sous silence. Pour moi, ce sera le dernier de cette réunion. C'est ce qui se passe en Grèce et en Espagne. Parce que c'est quand même des mouvements sur la planète très novateurs. Des mouvements anti-austérité. En Espagne, il y a Podemos, et il y a un rendez-vous électoral en avril ou en mai, je ne sais pas, qui risque de voir ce mouvement percer, comme disait Cobra, la percée est proche, percer complètement dans les résultats. Podemos vient... de la continuation du mouvement des indignés. Et donc, c'est un mouvement assez horizontal. Et puis, la gauche grecque avec Syriza, c'est des personnes très courageuses parce que toute l'Europe est derrière ce pauvre gouvernement grec pour le faire plier, pour qu'il s'adapte à l'austérité. Et puis, ils tiennent bon, ils disent qu'ils vont... Ça se passe maintenant, hein, et lundi, il y a l'Eurogroupe qui va regarder les propositions de la Grèce. Et la Grèce a d'ores et déjà dit que... il y a certaines propositions qui ne seront pas négociables, qu'eux, ils veulent, par exemple, augmenter le salaire minimum, ce n'est pas négociable. Ça ne plaît pas à l'économie quand le salaire minimum est haut et quand ils garantissent les retraites. Voilà. Alors, peut-être que la Grèce est un lanceur d'alerte ou un précurseur. L'Espagne est en train de suivre la voie. Voilà, entre l'oppresseur et l'oppressé, il ne peut être question de compromis. Tout comme cela est impossible entre l'occupé et l'occupant. La seule solution, c'est la liberté. Waouh, c'est quand même fort, hein. C'est quand même fort, hein. La seule solution, c'est la liberté. Voilà, avec le micro.
J'ai lu aussi un article dans Basta concernant Syriza, enfin ce qui se passe là avec Syriza. Alors pareil, je vais avoir un petit peu du mal à résumer parce que c'est compliqué. Historiquement, il faut savoir que après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne avait une très grosse dette, hein, après les traités de Versailles, qu'elle n'a quasiment pas honorée. Et la Grèce, c'était avait prêté de l'argent, je pense, un créancier. Et en fait, il se passe que pour plein de raisons, donc l'Allemagne n'a pas honoré sa dette et a dû avoir une reconnaissance. Les pays qui ont. Des pays ont permis à cette Allemagne, surtout à partir de la réunification, de diminuer de plus de la moitié ce qu'elle devait aux autres pays, et grâce entre autres à la Grèce. Et donc la Grèce pourrait s'appuyer sur l'idée qu'il y a eu une reconnaissance par d'autres pays de l'impossibilité qu'avait l'Allemagne de payer, donc que de l'abaissement de la dette pour lui permettre de que son économie puisse être pérenne, sinon son économie serait effondrée. Donc il n'y a aucune raison pour la Grèce, ça peut être pour elle un point d'appui de négociation, qu'elle ne bénéficie pas elle-même d'une reconnaissance de une reconnaissance européenne de l'absurdité de lui faire payer quelque chose qu'elle ne peut pas payer. Elle pourrait s'appuyer sur cette histoire historique, réelle, puisque l'autre avait eu sa dette, l'Allemagne, baissée de plus de 60%, 60 ou 65%. Alors, je ne pense pas qu'elle va réclamer les sous, puisque je crois que ça a été annulé. Enfin, il y a eu des accords de paix, il y a eu des trucs. C'est assez complexe, hein. Ça court sur je ne sais combien d'années. Mais quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est quand même... fort de café que madame la chancelière allemande là refuse au nom d'un credo complètement crétin de paiement d'une dette inique de baisser la dette ou de la supprimer carrément, alors que eux ils en ont bénéficié voilà de cela 30-40 ans. C'est quelque chose que j'ai appris aujourd'hui, ça, en lisant Basta. Je vous recommande Basta. C'est un média alternatif qui est vraiment intéressant. J'ai publié sur mon Facebook, d'ailleurs, un truc sur Syriza. Voilà. Voilà. Je trouve que c'est quand même c'est quelque chose d'historique, quand même. Et ça, on n'en entend pas parler dans les médias. Enfin, je pense pas dans les médias classiques. On n'entend pas parler de ça.
Oui, puis la Grèce a annulé une partie de la dette de l'Allemagne. Peut-être qu'un juste retour, c'est que l'Allemagne annule une partie de la dette de la Grèce. Hein, et ça serait Oui, ce serait en miroir une justice, hein, une justice divine. Voilà, ce serait, on peut terminer par ces mots pleins d'espoir. Laissons la justice divine décider de ce qui va se passer sur Terre. On va s'arrêter là, chers amis de PFC. Je vous dis à très bientôt, hein, vraisemblablement la semaine prochaine.